Bonjour André.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Fort bien.
Vous avez l'air en forme.
Alors, ah, tout à fait, oui.
Vous venez nous voir parce que vous faites partie des auteurs de la région qui sont invités à participer à l'autre festival, celui qui ouvre les livres, du 7 au 9 février à Avignon.
Oui, j'en suis ravi d'ailleurs parce que c'est... On est souvent plus à l'extérieur que, entre guillemets, à l'honneur chez soi.
Il n'y avait pas beaucoup de festivals du livre à Avignon. Donc,
Jusqu'ici, c'est que le deuxième reproduction, comme on dit, du festival. L'année dernière, j'avais été contacté, mais c'était un peu tard pour moi. Et là, j'en suis ravi parce que, en plus, mon livre est en concordance avec la ville.
Ah oui, il est avignonné, hein. Voilà. Enfin, il parle de quelque chose que les Avignonnais ou quelqu'un que les Avignonnais ont pu connaître il y a quelques années. Avant de parler du livre, on va parler un petit peu de vous. Le texte, la culture, l'écriture, c'est quelque chose que vous fréquentez quoi, depuis pas mal d'années apparemment.
Depuis toujours,
oui.
Pour être précis, depuis toujours. Moi, j'ai toujours aimé les mots. Alors, soit les mots qu'on lit, soit les mots qu'on dit. J'aime bien parler, mais j'aime bien lire. Et j'aime découvrir... des structures de phrases, des structures d'auteurs, des choses qui au départ ne sont pas de mon univers, mais qui m'apportent la surprise, donc l'intérêt, et après évidemment un enrichissement potentiel. Après, c'est pas toujours le cas, mais normalement c'est comme ça que ça marche.
Vous êtes gourmand en fait.
Très.
Quand vous en parlez, on a l'impression que vous avez envie de goûter la littérature.
Mais c'est ça, c'est ça. J'avais écrit, quand j'étais jeune, j'avais écrit un recueil de poèmes qui s'appelait « Le pain des mots », mais j'aurais peut-être pu l'appeler « Le gâteau des mots », parce que c'est encore plus jouissif au niveau gustatif.
D'accord, bon, on a le pain de sucre aussi, hein, qui peut rappeler le côté bien sucré. Alors, comédien, metteur en scène, Baudelaire, Claudel, Rictus, Césaire, Primo Levi, vous avez tous fait, quoi.
Oui, et le peu que vous donnez indique bien que ce sont des gens dont l'écriture était forte, dont la personnalité... dans la création littéraire était unique. Un type comme Césaire, un type, j'en ai pas dire comme ça, mais un auteur comme Césaire, il a eu le génie d'écrire du local qui est devenu universel.
Oui.
Ça, c'est le summum. Et c'est des gens qui m'ont appris non seulement la beauté du mot, mais comme je les ai joués, le phrasé adapté pour essayer de correspondre à leur univers d'écriture, donc à leur univers mental.
Souvent, les auteurs le disent, plus ils parlent d'eux-mêmes, plus ça devient général, plus
quand
ça concerne le monde.
Ouais, sinon, voilà. c'est de l'autosatisfaction, mais on ne va pas au bout de la troisième page.
On n'est pas du moi-je non plus.
Voilà,
faut qu'il y ait quand même un intérêt. Le théâtre, la télévision, mais toujours avec des scénarios, quoi.
Toujours un scénario. Bon, j'ai fait du doublage pour des documentaires. C'est-à-dire, je prenais la place de celui qui était interviewé. Et comme ça se fait, on traduit. Et l'intérêt, c'était un exercice différent aussi, puisqu'il fallait s'adapter au rythme de la personne, à l'intériorité de sa voix, pour que son message, même traduit, corresponde un maximum à ce qu'il voulait dire et à la situation qu'il avait vécue. Je me souviens par exemple d'un proviseur à Sarajevo pendant la guerre. C'est moi qui ai joué en somme son rôle, qui ai pris sa place. Il ne s'agissait pas de traduire la difficulté pour son lycée de cet homme et la douleur de pratiquer son travail dans une telle situation historique.
C'est pour ça qu'on parle d'adaptation plus que de traduction.
Oui,
puisqu'il faut vraiment transposer l'esprit de l'auteur.
La traduction, ce n'est pas moi qui l'a fait. Moi, je rectifiais quand ça ne correspondait pas à ma mise en voix. Mais quand même, c'est plus une recréation de la voix et du message que véritablement une transcription littérale qui n'aurait aucun sens et aucune humanité cachée.
Le mot à mot, c'est sûr que on le voit bien avec les traducteurs automatiques là sur Internet.
C'est
un peu particulier quand même. Alors la télévision, la radio, l'audiovisuel. Vous avez même enseigné le journalisme dans des écoles que nous avons fréquentées apparemment.
Oui, alors j'ai
pas la même période, mais
pas la même période. J'ai travaillé pour le CFPJ, pour le SJ, la télé suisse romande, pour une télé à Neuchâtel en Suisse aussi, et pour France Télévisions dans les Dom-Tom, ce qui m'a permis de voir qu'on enseigne toujours la même chose, mais que pour l'enseigner selon la géographie, la mentalité, selon la psychologie des îles, par exemple, il y a une adaptation intéressante à faire. Les gens sont les mêmes, ils sont aussi intelligents, j'allais dire, que vous et moi,
mais oui, bien sûr, que
chez,
heureusement,
que chez nous, encore que nous, ce soit pas sûr, bon, mais je veux dire qu'il faut toujours s'adapter, et c'est le principe même du comédien qui doit s'adapter au rôle tout en adaptant le personnage à sa personne. Mmh. Donc, même quand je ne jouais pas la comédie, j'étais quand même dans mon élément d'appropriation d'un texte et de transmission vis-à-vis d'autrui.
D'accord. Ben là, on va parler justement d'un personnage,
oui,
puisque c'est le personnage principal de votre roman, Avignon, Avignon la Noire. Alors, ce Avignon, Avignon, il est double, là.
Oui,
on peut expliquer pourquoi double Avignon.
Alors, le personnage n'est pas bègue, ce que ça pourrait laisser supposer. Tout simplement parce que c'est le surnom qu'on lui a donné à la gare lorsque cette personne dormait. On va revenir pourquoi.
Ça explique un peu, oui.
C'est parce que l'annonce qui était faite autrefois à la gare, c'était Avignon, Avignon, 3 minutes d'arrêt, 5 minutes d'arrêt. Et comme elle dormait là la nuit, ou avant que ça ferme, et elle se réveillait en sursaut, et elle criait Avignon, Avignon.
Elle avait ça dans le...
Elle a été baptisée
d'accord
comme ça.
Alors, c'est Maria. C'est un personnage, vous êtes inspiré
de... Maria, c'est sa mère.
C'est sa mère, hein. Oui, voilà. Ah, d'accord. Et elle s'appelait comment? Ah, ben, on n'avait pas son nom, en fait.
Voilà. Alors, j'ai voulu que ce personnage n'ait pas de nom, parce qu'elle était un peu... C'est une énigme, sauf un moment dans le roman, mais que je ne peux pas dévoiler, bien sûr, où elle-même se baptise à Avignon elle-même.
D'accord, bon, on va l'appeler Avignon, Avignon. Voilà. Alors, la Noire, moi j'ai cru qu'elle était noire. Mais en fait, elle est bronzée.
Elle a une peau tannée. Et surtout, elle était toujours habillée en noir. Alors, l'histoire m'a été inspirée par une dame que beaucoup d'Avignonnais ont croisée, ont connue, qui errait dans les rues de la ville, qui était une femme avec un mystère, qui avait un langage très châtié, mais qui avait une difficulté psychologique pour pas en dire plus. Alors, il est bien évident que je me suis dit, voilà un personnage de théâtre, sauf que j'en ai fait un roman.
D'accord.
Mais il est bien évident qu'en aucun cas je n'aurais osé essayer de la questionner pour connaître sa vie ou pour aller enquêter autour d'elle. Ce n'était pas du tout mon but. C'est l'image de cette femme en errance, en difficulté mentale, mais avec une classe, on peut dire, une certaine dignité.
Une élégance.
Qui m'a inspiré. Et donc, je suis parti sur les traces imaginaires de cette personne. Je me suis dit, cette personne qui a un tel langage, dans mon héroïne, comment a-t-elle pu chuter?
Alors, vous inspirez du personnage réel,
oui,
que certains Avignonnais ont connu. C'était dans quelle période, ça? Les années 80, les années...
Oui, enfin, moi, je l'ai connu au tout début des années 80, peut-être un tout petit peu avant.
D'accord.
Et c'est donc... Ça a permis aussi dans mon roman de balayer toute une époque par rapport à mon personnage. Je dis bien, pas cette femme.
Oui, parce qu'elle est devenue votre personnage.
Elle est devenue l'inspiratrice de mon personnage, la muse du personnage, si on peut dire. Et ça a permis de voir aussi une évolution de la ville, parce que mon roman, c'est aussi cette femme qui était prof dans mon roman, donc qui avait un niveau culturel, qui transmettait et qui est passé de la transmission du savoir au caniveau. Et en même temps, ça me permettait de faire un parallèle Avignon, Avignon la Noire avec la ville,
oui,
qui est une ville à double face,
oui,
riche au niveau culturel, comme très peu de villes de cette taille. C'est la seule en France, en dehors même du Festival d'Avignon, qui est une ville très riche sur le plan patrimonial.
Palais des Papes,
il y a le pont d'Avignon, et puis il y a une richesse d'archives qui est énorme ici, et qui en même temps est obligée de vivre avec une misère, des rues difficiles, une pauvreté qui est visible en plus.
Ben, c'est une ville pauvre, il faut le dire, elle a failli être mise sous tutelle il y a quelques années quand même.
C'est une ville qui était très pauvre, et donc ce côté ambivalent de la ville, je trouvais que ça correspondait bien aussi au côté ambivalent de mon personnage qui a été mais qui n'est plus.
Ce personnage à la fois classe et misérable.
Voilà.
En gros. Hein. Ça vous a pris comment cette idée de broder, de partir de la noire, on va l'appeler, parce qu'on n'a
oui,
pas.
Oui, c'est comme ça que moi je l'appelle.
Et d'imaginer sa vie. Elle vient de Saint-Dizier dans votre roman.
Oui, alors.
Pourquoi j'avais... Saint-Dizier, pourquoi alors, pas Montmartre ou...
Voilà, alors j'avais besoin dans mon roman, puisqu'on sait qu'ici il y a un hôpital psychiatrique reconnu, renommé. À Montfavet, quoi, oui, Mondovergue.
Que l'ami Claudel l'a rendu célèbre.
Voilà. Et que, à Saint-Dizier, il me fallait un hôpital psychiatrique, il y en a plein d'autres, mais il me fallait surtout une situation géographique très particulière par rapport à mon histoire. La ville de Saint-Dizier est coupée par un canal, ce qui fait que pendant la guerre de 40, puisque mon histoire commence là, pendant la guerre de 40, il y avait une partie en zone occupée, comme tout le nord et tout l'est de la France, mais il y avait aussi une partie en zone purement interdite. La partie la plus au nord était interdite, et il fallait des laissez-passer pour circuler d'une partie de la ville à l'autre. Ce qui fait que ça, au niveau de l'énigme, au niveau du mystère, de ce qui m'intéressait, bon, j'avais la chance de connaître cette ville, parce que moi j'y avais habité lorsque j'étais beaucoup plus jeune.
D'accord.
Et d'où je me suis dit, non, l'hôpital psychiatrique, c'est pas la peine d'aller le prendre à Grenoble ou ailleurs. C'est un gros plus pour ton énigme.
D'accord, c'est pour ça que ça explique un petit peu le...
Voilà,
le
ça explique.
Puis en
et
même
puis
temps,
ça explique, pardon. Mmh. Et puis ça explique aussi le fait que Saint-Dizier, à l'époque où ça commence dans les années 60, c'est une ville qui commence à être en déshérence aussi. Mmh. C'est une ville où il y avait une base américaine, De Gaulle les a mis dehors, donc la ville, elle s'appauvrit, et c'est une ville qui était très province, beaucoup plus qu'Avignon à l'époque.
Donc, dans votre roman, en gros, on étudie la dégringolade, parce qu'elle est prof, non
une, voilà, un moment, c'est mon but. Mmh. C'est-à-dire qu'elle vient à Avignon avec...
un bagage, quelque part.
Un bagage, alors avec un bagage culturel, oui, un voilà, bagage de cours. Elle n'a pas de problème pour vivre, parce qu'elle a mis en location la maison qu'elle occupait. Mmh. Et elle arrive à la rue, à côté de studio, elle arrive à la rue Filonnard. Parce que la rue Filonnard, c'était l'arrivée de toutes les nouvelles vagues de migrants. Et donc, elle arrive là parce que le loyer n'est pas excessif. Et donc, cette femme, elle va s'épanouir aussi dans ce quartier-là.
Alors, elle habite rue, elle a une maison, enfin un appartement rue Filonnard.
Elle loue un petit appartement.
Mais finalement, elle vit dans la rue, quoi.
Mais après,
la rue. Et la gare, même, puisque Avignon.
Elle vit dans la rue et dans la gare, parce que elle finit, dans mon personnage finit par étouffer. C'est-à-dire, le fait qu'elle s'étouffe psychologiquement, elle a l'impression que c'est les murs qui l'étouffent. Voilà. Et donc, à Avignon, elle vient pleine d'espoir. Et puis, la porte qu'elle croyait pouvoir ouvrir pour avoir l'énigme sur le secret de famille que lui a laissé sa mère, douloureux secret de famille, la porte se referme et c'est sans espoir. Et petit à petit, comme il n'y a plus d'espoir, bien la chute
L'espoir fait vivre.
Jusqu'à une fin tragique, j'allais dire presque naturellement.
Bon, on va pas raconter la fin, mais c'est vrai que c'est un drame quand même, donc ça finit.
Ah, c'est quand même un drame.
Ça finit pas super bien, quoi.
Et puis c'est un drame qui est dit dès le début, puisque
c'est annoncé au départ.
Ouais. L'annonce au lecteur dit que, je ne lis pas tout, les jeux sont faits, la partie doit cesser, juste le temps dans la fraction du jet de surprendre les ultimes hoquets de la mémoire sélective, de surprendre en flashback quelques images d'une vie. Histoire en désordre d'une femme folle qui va mourir dans une ville en trompe-l'œil.
Les dés sont pipés.
Voilà.
C'est un peu ça, parce qu'elle part avec...
Dès le début, on sait que la fin est inéluctable.
D'accord. Alors, il n'y a pas de fin, mais la suite, c'est bientôt, c'est pendant l'autre festival. On va avoir l'occasion de discuter avec vous, on va avoir l'occasion de faire dédicacer votre livre.
Mais, en tout cas, c'est ce que j'espère. Donc, je serai deux après-midi durant au Novotel Centre, de 14 à 17 heures, le samedi 8 et le... dimanche 9 février.
Et puis au théâtre. Et puis au théâtre aussi.
Et puis au théâtre La Luna à 18h30 le 9 février pour une lecture d'extraits qui permettront de découvrir, non pas l'histoire parce que ce serait trop difficile, mais de découvrir quelques aspects de cette dégradation, l'éducation, la femme libre, la femme en recherche et puis la femme dégradée.
Grandeur et décadence.
Voilà.
Alors, ce sera donc le 8 février, deux rendez-vous, hein, l'après-midi au Novotel Avignon Centre. Le dimanche 9 février, pareil, deux rendez-vous l'après-midi au Novotel. Et puis le soir, 18h30, au théâtre La Luna Avignon. Et puis, si on veut découvrir votre prochain roman, le nouveau qui va sortir,
oui,
ce sera au mois de mai, là, au théâtre Lille 80.
Au théâtre de Lille 80. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Bah, pourquoi pas. Vous savez, nous, on vous reçoit sans problème, hein.
Merci beaucoup.
Avec plaisir. Merci André Morel. Bonne continuation, bon festival. Et puis, c'est vrai que vous êtes prolifique, hein, vous avez quelques romans à votre actif.
Ouais.
Donc, bonne continuation.
Merci beaucoup.